Gastronomie au programme de cette édition, avec du poisson, mais pas n'importe lequel, celui de Mauroy. Fiscalité aussi, puisque le Conseil d'État s'est prononcé sur la loi fiscale. Et puis on vous parle de sport, de danse et de théâtre. Le journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
On commence à Paris, où le Conseil d'État s'apprête à annuler la loi fiscale du 15 décembre dernier.
Souvenez-vous, c'était juste avant l'adoption du budget, lors d'un premier passage en commission de l'économie. Le texte avait été amendé à plusieurs endroits, principalement à l'initiative de Nuit Holoreille et sa nouvelle rédaction largement approuvée, y compris par les membres de la majorité Tavigny. Le président de l'Assemblée et le gouvernement s'étaient alors entendus après de multiples claquements de porte en privé pour présenter un nouveau texte reprenant à son compte les amendements insérés par l'opposition. Une nouvelle séance de commission avait été convoquée 10 jours plus tard pour valider ce texte finalement adopté en séance le 15 décembre. Au grand dam des membres de l'opposition Ahip et Tapura, qui dénonçaient alors le fait que le règlement intérieur ne prévoyait pas cette procédure et qui accusaient Tony Géros de tailler un règlement sur mesure, les deux parties d'opposition avaient donc porté l'affaire devant le Conseil d'État. Ce matin à Paris, les conclusions du rapporteur public ont été dévoilées. Elles tente à l'annulation de la loi prise, dit le Conseil d'État, en méconnaissance de l'article 27 du règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie française. La décision du Conseil d'État sera rendue après-demain, mais il serait très inhabituel qu'elle ne suive pas les conclusions. Grande satisfaction donc, bien sûr, pour Nuit Holoreille.
On voit effectivement que ça va complètement dans notre sens, c'est-à-dire que toute la procédure législative qui aurait dû être suivie n'a pas été respectée de bout en bout. Sur le fond, c'est vraiment un désaveu complet du gouvernement, puisque ce texte était le texte quand même le plus emblématique de l'exercice 2023, avec des dispositions fiscales qui ont été contestées par tous les acteurs économiques.
Une décision qui n'est pas sans conséquences budgétaires, hein, selon l'ancien ministre des Finances, puisque le budget deviendrait ainsi insincère et devrait être l'objet d'un collectif budgétaire dès l'ouverture de la session administrative le mois prochain.
Ça signifie un déséquilibre de près de 4 milliards, si j'ai les chiffres en tête. Donc ça veut dire que le gouvernement devra passer à un collectif budgétaire pour rééquilibrer le budget qui est devenu insincère. Et donc ça veut dire que le gouvernement va devoir trouver des sources de financement à hauteur de cette somme. Le gouvernement souhaite aussi remettre la question de cette réforme fiscale sur la table. J'espère qu'il va tenir compte de cette décision.
Et pour rappel, les mesures phares de cette loi concernaient les exonérations fiscales applicables aux véhicules électriques et hybrides et plusieurs mesures concernant l'immobilier, sans oublier la modification des domaines concernés par la défiscalisation du pays.
À Paris toujours, la vice-présidente a milité pour obtenir le retour de restes humains maoïs conservés en métropole.
Oui, dans un contexte où en décembre dernier, les parlementaires français ont adopté une loi sur la restitution des restes étrangers conservés par des établissements français. On parle de beaucoup d'ossements, de corps ou de morceaux de corps qui ont été collectés lors de fouilles archéologiques, mais aussi parfois dans des conditions beaucoup moins dignes par des scientifiques, explorateurs ou collectionneurs européens. Une partie de ces restes a fini dans les stocks des musées, des universités ou encore des services d'archéologie. Ils sont rarement sortis des placards et juridiquement intégrés à des collections publiques. Et la nouvelle loi vient donc simplifier les démarches pour restituer les corps ou les ossements à leur territoire d'origine. Mais les facilités de retour ne concernent pour l'instant que les États étrangers. Plusieurs territoires ultramarins veulent pourtant profiter de cet élan pour obtenir eux aussi des restitutions. C'est le cas de la Nouvelle-Calédonie, de la Guyane, mais aussi de la Polynésie, donc, dont la vice-présidente Eliane Tevahitoua s'est entretenue ces derniers jours avec la ministre de la Culture Rachida Dati ou encore le conseiller outre-mer de l'Élysée ou des représentants du Quai d'Orsay.
Je pense que vous avez pu voir un peu la presse étrangère. Il y a cette volonté de restitution des restes humains dans le monde. Donc nous, on réclame aussi les nôtres, qu'ils reviennent dans leur pays et dans leur île.
La vice-présidente a indiqué que ces rencontres avaient été fructueuses. Les représentants de l'État, dit-elle, se montrent prêts à avancer. Les parlementaires aussi, puisque lors du débat sur la loi de décembre, un article a été inséré au Sénat. Il prévoit un rapport pour la création d'une procédure de restitution applicable aux Outre-mer. Mais alors, quel reste pourrait être restitué? C'est difficile à dire à ce stade. La Guyane s'intéresse particulièrement au corps de Kalina, une ethnie amérindienne. La Nouvelle-Calédonie, elle, a déjà obtenu par le passé le retour des têtes du grand chef Atai et celle de son sorcier. Mais d'autres restes conservés dans des fonds publics pourrait intéresser le caillou. Quant aux Fénois, tout reste à faire. La vice-présidente Eliane Tevahitoua parle largement de crânes et ossements prélevés dans des grottes et autres sépultures ouvertes. Elle souhaite pouvoir les inhumer sur leur île d'origine.
Si vous retournez 100 ans auparavant, il était de coutume d'avoir, dans toutes les belles chaumières en Europe, d'avoir un cabinet de curiosité où figurait le crâne de quelques indigènes.
Et à entendre la responsable, tous les musées de France ont dans leur stock de tels objets. Il y aurait dans le seul muséum d'histoire naturelle de Paris quelques 1200 fragments humains originaires des Outre-mer. À Paris toujours, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a confirmé qu'elle avait mobilisé ses services sur l'adaptation du dispositif de restitution au territoire d'outre-mer. Quant au ministère des Affaires étrangères, il a été sollicité pour accompagner la Polynésie dans des démarches similaires auprès d'autres États.
Une question maintenant, pourquoi ne mange-t-on pas le poisson de Mauroy ?
Une question dont la réponse pourrait paraître évidente et qui depuis plusieurs décennies déjà déchaîne les passions. Car c'est de notoriété publique, les militaires basés sur l'atoll des essais nucléaires ont interdiction formelle de consommer le poisson du lagon, pourtant très abondant. Alors l'armée a-t-elle peur des radiations, comme on l'entend régulièrement dans le débat public ou sur les réseaux sociaux ? Eh bien nous avons posé la question directement au commandant supérieur des forces armées, le contre-amiral Geoffroy Dandigné. Il parle effectivement d'un principe de précaution, mais pas contre les retombées des essais. C'est la ciguatera qui serait en cause, hors de question de risque à une grade généralisée pour la trentaine de militaires basés sur place.
On a 3h30 d'avion pour revenir ici, donc l'évacuation sanitaire, c'est pas forcément immédiat. Et donc on leur impose tout un tas de règles de sécurité qu'ils n'auraient pas à papette. Voilà. Ils peuvent aller se baigner dans le lagon, mais ils doivent le faire en restant à une zone où ils ont pied. Voilà, pas question d'aller partir au large. Ils ont le droit de pêcher à partir des quais, mais ils n'ont pas le droit d'aller au milieu du lagon pour aller pêcher. Voilà, en fait, on a tout un tas de mesures qui sont très restrictives pour eux, je conviens, mais parce qu'on veut absolument prévenir tout accident qui les mettrait dans une situation très très délicate, aussi loin de toute forme de secours.
Voilà, le contre-amiral Geoffroy Dandigné interviewé à Mauroy, puisqu'une visite État-pays était organisée samedi sur l'atoll du Grand Secret. On vous en parlait ce matin. Une visite à l'occasion de laquelle les scientifiques du CEA ont présenté le protocole et les résultats de leur surveillance radiologique de l'île. Ils l'assurent, la radioactivité artificielle est nulle ou quasi nulle dans les échantillons prélevés, que ce soit dans l'eau, le sable, le coco, le corail ou le poisson. Donc, en revanche, la contamination des récifs de Mauroy par la ciguatera est avérée depuis bien longtemps. Il faut noter que la microalgues qui causent cette maladie se développent plus facilement sur les récifs qui ont subi de fortes perturbations. Les essais nucléaires ne sont donc peut-être pas complètement étrangers à l'interdiction du poisson.
Du sport avec cette réélection.
Celle de Louis Provost à la présidence du COPF, le Comité Olympique de Polynésie Française. Contesté cette année par le président de la Fédération de Basket, Fahana Taputu, candidat soutenu par son adversaire de toujours, Tahoïti Nena, Louis Provost a tout de même été réélu plutôt confortablement. Il ne se prive néanmoins pas de dénoncer certaines déclarations de ses adversaires dans cette élection et le rôle qu'aurait tenu Tahoïti Nena, pas candidat mais qui bénéficie toujours d'une certaine aura auprès de certains présidents.
Je vous signale quand même que l'UNSS a tenu les rênes du comité olympique pendant 8 ans. On n'en a pas vu la couleur du travail, on a vu que des promesses qui ont été encore faites dans cette élection, à savoir d'aller au CIO, de récupérer 300 millions par-ci, d'aller au CNOSF, on va récupérer 100 millions. En fait, nous on n'est pas que sur de l'argent, on est aussi sur une technique, une productivité. Je ne dis pas que l'argent, on n'en a pas besoin, mais l'essentiel du travail ne se trouve pas seulement de récupérer du pognon. Les présidents de fédération ont bien compris effectivement les enjeux, ont bien compris où était la différence entre les deux candidats.
Voilà, Louis Provost en poste de 2003 à 2008, puis depuis 2017 au COPF, estime que ses efforts de modernisation ont payé. Et il assure qu'après cette réélection et une rencontre avec Moëté Brodersson, ses rapports tendus avec la ministre des Sports, Nahima Temari, sont prêts à repartir du bon pied.
Je le connais, il y a eu quelques tensions avec le ministère. Et c'est comme ça. Il met un dialogue, il se fait toujours à deux. Pas chacun dans son coin, à ruminer, à taper la tête contre le mur. Effectivement, on a eu un rendez-vous avec le président Moëté, qui a été à l'écoute. À l'issue de cette rencontre, les liens se sont raccordés et on est en discussion pour pas mal de sujets. Moi, je suis un syndicaliste, je défends bec et ongles, mais je suis aussi mettre de l'eau dans mon vin, comme on dit, et arrondir les angles pour que ce soit les athlètes qui en soient les principaux bénéficiaires et pas les victimes, je dirais, d'une incompréhension totale.
Voilà, selon Louis Provost, les autorités du sport travaillent dans le même sens avec un objectif clair, une victoire à la maison aux Jeux du Pacifique de 2027.
Culture désormais, on connaît les lauréats du Heiva Tolea.
Oui, au terme des 3 soirées de concours de la 7e édition qui ont réuni plus de 500 jeunes artistes, c'est le collège de Hao qui a décroché le premier prix devant le collège Mako Tevan et celui de Taravao. Les élèves des Tuamotu ont aussi obtenu le prix du meilleur dossier pédagogique ainsi que celui du meilleur Orero parmi les 13 autres établissements en lice. Ils étaient donc 14 à avoir répondu à l'appel cette année.
Après la danse, le théâtre, le festival TVVO se termine cette semaine.
Oui, après Canopée en première semaine, puis la pièce la dernière nuit du monde jouée ces derniers jours. Les spectacles s'achèvent cette semaine au Petit Théâtre de la Maison de la Culture avec le thème « Parler pour réparer » qui se concentre donc sur la prison, les conséquences des actes commis par les détenus et leur réinsertion dans la société. Après la projection du film « Je verrai toujours vos visages » mercredi soir, le comédien Jean-Marc Mahy sera sur les planches du jeudi au dimanche pour présenter la pièce « Un homme debout ». Alors Jean-Marc Mahy, c'est le personnage adéquat pour parler du sujet puisqu'il a coécrit cette pièce qui traite de la vingtaine d'années qu'il a passé en prison. Il y raconte la détention, l'isolement, la découverte de la culture aussi, sa survie derrière les barreaux et tout ce qu'il a entrepris pour s'insérer au mieux dans la société après sa sortie. Une pièce qui est passée au prestigieux Festival d'Avignon, qui a été jouée plus de 300 fois et qui achève donc sa tournée à Tahiti. Jean-Michel Van Den Heyden, metteur en scène et co-auteur de la pièce, était sur notre plateau ce matin pour nous en parler. Et ce qui est intéressant, c'est que cette œuvre et le message qu'elle porte, notamment à destination des jeunes, eh bien, ils ont été reconnus d'utilité publique en Belgique. Écoutez.
On a fait 100 animations autour de ça, donc des rencontres avec des jeunes, du travail de fond, de terrain, et c'est là où elle a été d'utilité publique. C'est qu'on a eu un budget pour faire tout ce travail, et puis quand le travail s'est fait, j'ai proposé à la ministre, mais donne à d'autres la possibilité qu'on a eue. Donc créer un fonds qui devient un fonds pour reconnaître des pièces de théâtre d'utilité publique, pour permettre de faire ce travail de fond et de terrain avec des pièces qui avaient du sens, qui avaient envie d'amener un message de paix, d'espoir, de changement de société.
Ou une pièce de Jean-Marc Mahy et Jean-Michel Van Den Heyden. Avec ses réflexions sur le système carcéral et son message, c'est donc de jeudi à dimanche pour la dernière semaine du Festival TV Vaux. Les infos sur notre site radio1.pf.
Et pour terminer, on part du côté des États-Unis.
Oui, avec le chanteur Harry Mystique qui poursuit ses rêves. Après avoir participé en octobre dernier au festival californien Taste of Tahiti, le Tahitien renoue depuis fin janvier avec les scènes américaines. Sollicité par l'artiste taïwanais Bao Bao Shen et le producteur de musique Tim Coles, Harry Mystique Chansin participe en moment au USA Our Island Tour 2024, une tournée de 3 mois rassemblant sur un seul et même spectacle des artistes de l'île Maurice, de Madagascar, de Papouasie, de Taïwan et donc de Tahiti. Ces chanteurs, danseurs et musiciens qui ne s'étaient jamais rencontrés ont eu 5 jours pour monter un spectacle commun en apportant chacun 2 de leurs compositions. Un challenge de taille que le Tahitien a choisi de relever malgré les difficultés. Les précisions d'Arémiti Chansin.
C'était carrément difficile